403 sont renversés, la grève sauvage générale. Les portes finissent de brûler, les enragés ouvrent le bal. Il est 5 heures, Paris.
On a pas mal de questions en fait sur l'idéologie allemande parce que c'est un texte assez riche. La première, alors oui, je vais quand même vous poser une question d'ordre un peu introductif et on ira ensuite après. La question d'ordre introductif que j'ai, c'est d'abord, bon, on a eu la critique de Hegel dans les premiers articles avec la critique de Bauer dans la question juive. On a eu la Sainte Famille avec la critique des jeunes Hegeliens. Quel est le besoin à ce moment-là, en 45 ou en 46, je sais plus, pour Marx et pour Engels de refaire un truc et d'en rajouter une couche sur les jeunes Hegeliens?
Alors, dans l'idéologie allemande, ils ne rajoutent pas une couche sur les jeunes Hegeliens. Alors, si vous voulez, la question juive, les manuscrits de 44, les manuscrits de 42-43 sur la censure, sur le roi de Prusse, etc., la Sainte Famille, Marx règle ses comptes méthodologiques avec les Hegeliens qui n'ont pas été capables de comprendre la faillite hegelienne. Hegel est dans une trajectoire de méthodologie subversive et radicale qui fait que tout est aboli par l'histoire du point de vue de tout ce qui promeut les aliénations, la fétichisation, la domestication. Et au bout du bout, il faut comprendre cette révolution hegelienne qui est liée à la Révolution française. Il faut se dire qu'avant la Révolution française, l'homme universel, de l'aliénation universelle, n'existe pas encore. J'ai l'homme local, de l'aliénation locale. La Révolution française est une abomination terroriste, sanglante, où le capitalisme va produire justement le camp de concentration démocratique de la meurtrissure, de la blessure et de la mort, mais il produit en même temps l'optique universelle du comprendre radical qui fait dépassement. C'est-à-dire que derrière Robespierre, il y a Babeuf. Et Hegel a compris ça, mais Hegel a compris ça en un homme universel qui remet en cause la domestication dans le terrain de la domestication. Et c'est pour ça qu'on aboutit à l'état rationnel. Marx, à travers la critique de l'état hegelien, à travers les manuscrits de 44, à travers la Sainte Famille, à travers la question juive, à travers tous les textes d'avant 1846, puisque c'est la date de l'idéologie allemande, il règle ses comptes, c'est-à-dire que chapelle par chapelle, secte par secte, il désingue l'aliénation post-hegelienne qui demeure prisonnière, finalement, de la mystique de l'état rationnel. C'est-à-dire que tous ces gens-là sont dans une critique de la politique pour produire une autre politique. Ils sont dans une critique de l'économie pour produire une autre économie. Et le bulldozer Marx-Engels arrive en tant que résultat des luttes radicales de la paysannerie subversive et de la classe ouvrière insurrectionnelle de la modernité qui prend le flambeau en allant au bout et en montrant en quoi Hegel est génial et en quoi Hegel s'est planté. Et en quoi Hegel est génial et en quoi Hegel s'est planté, c'est le déterminisme historique des conditions objectives qui fait que les questions qu'un homme se pose sont les questions du temps de son époque et qu'on ne peut pas, malgré toute l'intelligence qui bouillonne entre nos deux oreilles, dépasser le temps de notre temporalité. Donc, pour que le problème soit résolu, il ne fallait pas que ce soit résolu dans une antichambre de bouquins et de discussions académiques, il fallait que ça soit résolu sur le terrain de l'histoire par le tumulte et par la radicalité des luttes de classe. Et donc, à ce moment-là, après avoir opéré ce grand nettoyage, Marx fait la synthèse, c'est-à-dire que on passe du Marx qui fait la critique de la politique, qui fait la critique de l'économie, qui fait la critique de la domination, à l'homme, Marx, en tant que reflet des luttes de classe radicales humaines, qui va permettre de désigner la trajectoire de réappropriation de l'humanité par elle-même. Et l'idéologie allemande, et donc ce texte gigantesque de méthodologie infinie où toute la philosophie aliénatoire qui, à partir de la mort des présocratiques jusqu'au kantisme et jusqu'à l'hegelianisme des restructurations aliénatoires avait posé le problème sur le champ de la politique et de l'économie, va abolir la politique et l'économie. C'est dans l'idéologie allemande qu'on a justement ces perspectives les plus radicales, à bas l'argent, à bas l'État, à bas l'économie, à bas la religion, et à bas la marchandise comme religion moderne la plus délirante du temps contemporain. L'idéologie allemande est écrite en 1846, on est en 2018, on va fêter les 50 ans de mai 68, mais il y a déjà dans l'idéologie allemande toute la critique radicale de l'esprit, de l'imposture de mai 68, carnaval de la libération des mœurs et défense absolue et radicale de la grève sauvage barricadière qui, dans le même temps, dit l'inverse de ce que la commémoration médiatique a retenu. Parce que dans l'idéologie allemande, on a cette contradiction. À chaque moment, il y a la contre-révolution qui veut faire mainmise et il y a la révolution qui dépasse. Et finalement, quel est l'adversaire le plus radical de la révolution? C'est la gauche de la marchandise, c'est la gauche de la gauche de la marchandise, c'est-à-dire que c'est le gauchisme. Plus la révolution est dangereuse, plus elle avance, plus la contre-révolution adopte le langage de la révolution. Donc, la forme la plus réactionnaire du capital, c'est le gauchisme de la marchandise qui, précisément, est la forme la plus extrémiste de l'ambiguïté langagière et de l'imposture. Et c'est pour ça qu'il y a cette critique radicale et de Feuerbach et de Stirner qui, finalement, est une critique préfigurative de toutes les mystifications gauchardes que le temps de l'histoire va connaître ultérieurement. Donc, l'idéologie allemande, c'est le texte radical qui fait que, après avoir critiqué la politique et l'économie du point de vue de la politique et de l'économie, on va rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire qu'on va produire une interprétation radicale de ce qu'est la conscience historique, de ce qu'est la conscience vraie, de ce qu'est la conscience fausse. Autrement dit, ce qui fait l'homme, c'est l'histoire des modes de production qui produit la reproduction du rapport social de l'homme reproduisant l'homme à travers l'homme reproduit par sa production. Et à partir de là, s'ouvre ce qui va cheminer vers les Grundrisse, ce qui va cheminer vers le capital. Mais si quelqu'un vous pose la question, et on me l'a posé des fois très souvent, on me dit « mais quel est le texte le plus emblématique de la méthodologie subversive ?» C'est l'idéologie allemande. C'est-à-dire que si je lis l'idéologie allemande, je comprends ce qu'est l'art, ce qu'est la religion, ce qu'est le droit, ce qu'est la mystification, ce qu'est l'inversion, ce qu'est la crise. Et, s'il n'y avait pas eu l'idéologie allemande, il n'y aurait pas eu ni les Grundrisse, ni le capital. C'est quelque part le préambule méthodologique qui ouvre les portes de toutes les portes.
D'accord. Et donc, pour creuser là-dedans, j'ai une première question qui est un peu générale, et toutes les autres, c'est des, on peut les concevoir un peu comme des versions particulières de celle-ci, mais sur des points sur lesquels il faut revenir. Donc la première, c'est, Marx dit au tout début que ce que les individus sont coïncide avec ce qu'ils produisent. Et on a un peu, en fait, quand on lit, on a un peu l'impression d'un raccourci, c'est-à-dire on voit pas tellement, on n'arrive pas vraiment à comprendre logiquement, conceptuellement, comment passer de ce qu'ils produisent à ce qu'ils sont.
C'est très simple. C'est très simple. Le produire, c'est pas un acte mécanique qui fait que on prend, on transforme et on aboutit. C'est pas une mécanique horlogère de rouage qui, à partir d'une matière donnée, produise une matière résultat. Le produire est un acte dynamique. Et je le vois très bien, moi, en consultation avec les couples. Qu'est-ce qu'un couple ? Un couple, c'est ce que produit le couple dans l'implication réciproque de la relation de l'un à l'autre. À un moment donné, on fait une analyse philosophique critique et radicale de ce qu'est la stagnation, l'ambivalence ou la stérilité existentielle du couple. Et on comprend très bien, à travers justement les thèses sur Feuerbach, l'idéologie allemande, la phénoménologie de l'esprit, qu'il n'y a pas le couple qui serait déterminé par quelque chose qui fait que le couple est produit dans une dynamique qui produit quelque chose qui ne serait pas la rencontre des deux. Donc il y a une immanence. Qu'est-ce que je suis ? Je suis mon devenir. Qu'est-ce que je suis ? Je suis ma production. Autrement dit, nous produisons ou quotidien, à travers les cheminements de notre conscience vraie et de notre conscience fausse, à travers nos désirs, nos aliénations, nos résistances, nos émerveillements, nos faiblesses, nos lumières et nos ombres, la réalité objective de ce que nous sommes. Autrement dit, rien ne vient d'ailleurs pour produire ce que nous sommes. Nous sommes ce que nous sommes dans le temps historique qui produit le texte et le contexte de notre quotidien, dans la manière dont nous décidons de l'agencer, de le réagencer ou de le contre-agencer. Autrement dit, quand Bernard et Juliette viennent me voir et me disent « on bute, ça ne va pas », c'est le rapport de l'un à l'autre dans la production unitaire des deux qui bute. Ce que nous apprend l'idéologie allemande, c'est que tout est le produit de l'automouvement des rencontres aliénatoires dans la dialectique de l'histoire qui pose le chemin de l'émancipation et le chemin de la domestication. Donc, il n'y a pas d'outre-monde. On retrouve les présocratiques. Il n'y a pas un monde là-haut qui déterminerait un monde ici. Tout est ici déterminé par l'autoproduction des contingences qui font que la nécessité de l'histoire du temps qui est là fait l'histoire de cette nécessité en moi, en elle, en lui, en eux et en nous tous.
Je rajoute juste un truc à la question, c'est que justement j'ai envie de la prolonger un peu avec cette question qu'il y a toujours eu plus ou moins un peu de production. Mais est-ce qu'on peut considérer justement que, l'homme a toujours eu la production dans les mains, ou est-ce qu'elle est aussi apparue chez lui? Et dans ce cas-là, comment ça s'est passé? C'est un peu mystérieux.
Il n'y a pas eu toujours un peu de production. Il y a eu toujours chez l'homme la production. C'est-à-dire que ce qui fait la différence entre l'homme et les primates supérieurs qui ne sont pas devenus des hominidés, c'est que l'homme a, à un moment donné, cessé d'être dépendant de là d'où il venait, par l'agencement, le geste, la parole et la communion, c'est-à-dire la communauté première, l'homme a produit l'outil. Le singe a des moyens qui prolongent ce qu'il fait, mais ce ne sont jamais des outils de transformation. Et dans la longue histoire de l'espèce singe par rapport à la longue histoire de l'espèce homme, la différence essentielle, c'est que on n'est jamais passé de l'appareillage simple du singe à l'outil comme appareillage complexe chez le singe. La structuration historique, et c'est le fameux texte de Engel sur le singe, l'homme, l'outil et l'alimentation, c'est que le singe, avec un bout de bois, prolonge son membre pour produire une extension qui va effectivement produire une utilité concrète, mais qui ne sera pas transformationnelle. L'homme se structure dans la communauté de groupe, dans la communauté de parole, dans la communauté de gestes, comme, par essence, celui qui va produire l'outil comme lieu de l'espace-temps des transformations nécessaires, constamment reconduites. Donc, l'homme, par essence, produit, c'est-à-dire que l'homme, par essence, dans la communauté de l'être, produit et reproduit des conditions d'existence qui se transforment dans l'intentionnalité. Le fameux texte de Engels sur l'histoire, qui fait la différence entre l'histoire et la non-histoire, c'est précisément la problématique de l'intentionnalité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, une communauté d'hommes va produire une intentionnalité collective de transformation historique de l'espace-temps. Et du premier silex taillé rudimentairement au silex terminal qui va devenir quelque part une symphonie d'aiguillage, de coupure, de capacité, de façonnage, on a effectivement quelque chose qui est radicalement hors du champ de l'animal. Entre le bout de bois que le bonobono utilise, et même de manière complexe, et toute cette archéologie des symphonies du silex, on a un abîme. On n'a pas simplement une différence de quantité, on a une différence qualitative qui est une différence de nature. Donc, ce qui crée l'homme comme structure historique d'émerveillement, de parole, de transcendance, de verticalité, c'est le fait que l'homme devient l'agent de conscience agissant du reproduire la vie. L'homme n'est plus déterminé par la vie simplement, l'homme devient l'agent actif de sa transformation biologique et historique, il devient l'acteur vivant d'une transformation infinie. Et ça, c'est la spécificité humaine, par le produire et par le reproduire. C'est-à-dire que Bergson va vous dire que ce qui fait la différence entre l'homme et l'animal, c'est le rire. Descartes va insister sur le cogito. Tout ça est vrai, mais tout ça ne sont que des épiphénomènes résultants. À la racine de la racine, ce qui fait qu'à un moment donné, il y a une différenciation historico-biologique dans le temps universel du devenir des grandes fractures historiques, c'est que l'homme, par l'outil, devient l'agent permanent de sa transformation sociale. Et la parole, le langage, l'art, tout ce qui va faire que l'homme va se différencier de l'animal résulte de ce processus rupture qui est celui de l'outil. Et dans l'idéologie allemande, Marx montre avec une insistance infinie le fait que ce qui détermine l'homme, c'est que l'homme produit lui-même les conditions de production et de reproduction de son histoire. Alors après, il y a une histoire aliénée et il y a une histoire désaliénée. C'est-à-dire que la marchandise n'est pas une production humaine, alors que l'homme, pendant toute une série de longs siècles, n'a fait que produire la reproduction humaine. C'est-à-dire que l'homme a toujours produit, et à un moment donné, l'homme a vu une échappée de sa production à travers la révolution néolithique, qui a produit un rapport social qui n'était plus le produit d'une conscience humaine qui élaborait la reproduction de la vie humaine, mais qui, au contraire, dans la confiscation, l'incarcération et l'emprisonnement, venait signifier que l'homme échappé à l'homme était emprisonné par des structures de coercition, d'exploitation et d'aliénation qui faisaient que l'homme se mettait à produire de l'anti-humain. L'homme, pendant des millénaires, a produit de l'humain qui reproduisait l'humain, et à un moment donné, alors pas par magie ou par malédiction, il y a cette fameuse révolution néolithique qui produit toute une série de cartographies aliénatoires très spécifiques qui font que tout ce qui existait avant va disparaître et que l'homme, d'un seul coup, va être arraisonné par la production. Mais l'aliénation par la production, en tant que l'homme est arraisonné par la production, c'est un renversement dialectique qui, au néolithique, transforme totalement les configurations et qui fait que, précisément, on passe de la communauté humaine qui se reproduisait dans un cadre de reproduction humain, à la société et à la civilisation qui, assujettie au despotisme montant de la valeur d'échange, fait que l'homme ne produit plus pour ses besoins humains, mais produit pour une incarcération jusqu'au temps contemporain où il produit uniquement pour le marché mondial de la chosification.
D'accord. Bah, maintenant qu'on a parlé de la production, on pourrait commencer à parler des représentations de la conscience. La première question que j'ai, c'est... Bon, c'est clair dans l'idéologie allemande que la méthode dit que les représentations, les idéologies et toutes ces choses-là sont des résultats de la production. Et ma question, c'est comment se fait-il que, dans ce cas-là, dans un espace de production qui soit relativement homogène, on puisse avoir des créations idéologiques différentes, si elles sont toutes des produits de la production?
Ben parce qu'une structure sociale n'est jamais homogène. Dès lors qu'à partir de la révolution néolithique s'est produit la grande césure communauté-société, vie générique, vie civilisationnelle, les zones d'éclatement n'ont pas fonctionné de la même manière, avec la même temporalité et avec le même précipité. La révolution capitaliste médiévale du XIIIe siècle en Italie du Nord autour des foires, c'est pas Syracuse et c'est pas Palerme. Donc, dans une entité historique large, il y a des étendues réduites avec des contradictions spécifiques. Je relisais dernièrement les textes de Marx sur la Révolution française, et les textes de Marx sur la Révolution française partent très très loin, puisqu'il analyse en particulier la Révolution anglaise à travers Cromwell et tout le surgissement de la modernité marchande. Si le protestantisme, dans sa forme d'expression de ce que dit Marx, qui est le capitalisme. Parce que ce que montre Marx justement dans ces textes-là, alors ça reprend Hegel, ça reprend tout ce que les textes radicaux ont pu dire, mais ce n'est pas le protestantisme qui crée le capitalisme. Ce sont les conditions objectives de certains territoires qui rendant nécessaire la capitalisation du temps et de l'espace, rendent nécessaire un mode mental de perception qui est adéquat. Ce n'est pas M. Cromwell qui enclenche la révolution anglaise qui va produire cette transformation commerciale et navale qui va aboutir à la City. C'est toute une série de configurations bien spécifiques dans la crise du féodalisme anglais, qui est un féodalisme très particulier. Le féodalisme anglais qui résulte des conquêtes de Guillaume le Conquérant, avec cette importation normande dans un monde saxon, va créer une hétérogénéité anglaise qui fait que dans cette hétérogénéité anglaise, la reproduction féodale n'aura rien à voir avec ce qu'elle sera en Champagne, en Bretagne ou en Limousin à la même époque. Donc, si la révolution capitaliste s'est faite du temps de Cromwell en Angleterre, à travers toutes les sédimentations post-élisabéthaines qui venaient de la grande révolution capitaliste des enclosures de Henri VIII, qui avait rompu avec le papisme. Tout ça s'explique dans toute une série de déterminations logiques, à travers des structurations déterministes qui font que la révolution anglaise de Cromwell ne pouvait avoir lieu qu'en Angleterre et non pas en Italie, en Espagne et en France. Donc, j'ai un continent européen avec des modes de culture, une tradition catholique, une temporalité qui semble similaire, mais ça, comme le dit Hegel, la nuit, toutes les vaches sont grises. Après, il faut faire œuvre d'intelligence, de différenciation, de hiérarchie, de perception. Le développement du temps féodal, alors bien évidemment, le développement du temps féodal, c'est la féodalité européenne. Mais une fois que j'ai dit ça, j'ai rien dit. Parce que ce qui se passe en Espagne, au Portugal, en Italie, en Croatie, en Autriche, en Angleterre ou en France, puis après dans ce qu'on appelle les Pays-Bas espagnols qui deviendront les provinces hollandaises, tout ça c'est somptueusement différent, différencié et contradictoire. Donc, tout le monde vit dans le même module, c'est la civilisation occidentale chrétienne. Sauf que les temps de développement sont considérablement différents, avec des écarts, des dysfonctionnements et des contradictions. Et tout le travail que fait Marx, c'est de montrer que le développement du capital, à travers le développement vétérotestamentaire, du retour judaïco-calviniste à la source première de la Torah d'allégeance aux valeurs de l'échange, ça ne pouvait se passer qu'en Angleterre. Après avoir effectivement éclos à Amsterdam, mais ça ne pouvait absolument pas se passer à Syracuse ou à Naples, ni à Marseille, ni à Bordeaux. Donc, œuvre d'intelligence, œuvre de compréhension, œuvre de méthode, je dois creuser à chaque fois le seuil spécifique de contradiction dialectique entre les forces productives et les rapports de production à ce moment-là, ici. Et maintenant, et c'est la même chose pour le développement du protestantisme. Je veux dire que le développement du protestantisme en France au moment des guerres de religion, c'est Montauban, c'est Toulouse, c'est Rouen, c'est toute une série de structures urbaines en développement capitaliste, c'est surtout pas les campagnes qui vont, au travers de leur communauté paysanne, retrouver avec la Ligue, avec Henri de Guise, avec la famille de Mayenne, toute une conflictualité catholique traditionnelle contre la révolution protestante capitaliste. Donc, toutes ces luttes de religion, toutes ces guerres de religion sont l'expression de luttes de classe, de conflits sociaux. C'est-à-dire que qui bascule dans le protestantisme, qui reste catholique. Tout ça s'explique en fonction du devenir de la marchandise, en fonction des économies naturelles, en fonction des luttes de classe entre la paysannerie, le fisc, la bourgeoisie et l'Église. Donc, ce que nous montre Marx, c'est que rien ne vient de rien. Tout a une histoire, et quand à un moment donné, il y a effectivement une polarisation, cette polarisation exprime le devenir des forces productives. Si par exemple, après la révocation de l'édit de Nantes, le fameux édit de Fontainebleau, on a ce que l'on appelle l'insurrection des camisards à travers les dragonnades, qu'est-ce qui fait que dans ces basses Cévennes, on a une paysannerie calviniste? Parce que c'est une paysannerie, c'est ce que montre Marx, c'est ce que montre Engels, c'est une paysannerie qui est déjà absorbée par le développement de la marchandise. On a une paysannerie très spécifique qui, dans le cadre du développement de la marchandise et des industries textiles, a produit un soubassement mixte. Le paysan des Cévennes est certes encore un paysan, mais il tisse à domicile pour des industries textiles qui sont déjà sur le marché de la transformation calviniste, capitaliste, moderniste. Autrement dit, contrairement aux paysans du bocage breton ou du bocage vendéen, qui va rester dans sa communauté rurale un catholique invétéré contre le bourgeois des villes, le paysan de ces Cévennes insurgés qu'on appellera les camisards est déjà intégré dans une manufacture qui ne dit pas son nom mais qui est à domicile. Il est déjà intégré dans le despotisme de la filature moderne. Donc si le paysan camisard est calviniste, il n'est pas calviniste parce qu'un beau matin, dans une lecture spécifique de la Bible, il a dit « Ah, je deviens calviniste ». C'est qu'il y a un rapport social, et que ce rapport social collectif lui fait quitter la religion catholique qui représente la rente foncière traditionnelle parce qu'il rentre dans une rente commerciale et industrielle de modernité. Donc, au-delà de la surface des choses, au-delà de l'écume, de l'épidermie, il faut creuser, toujours en revenir au concept de la radicalité, tout s'explique d'une manière précise, à condition que je veuille bien faire œuvre de clarification et d'approfondissement.
Oui, et là, vous avez différencié en fonction, je simplifie, des niveaux de développement des forces productives dans chaque espace social. Mais par exemple, si on prend, petite précision, si on prend, je ne sais pas moi, la France d'aujourd'hui, on a cet espace qui est en 2018, et on peut avoir de ce mois-ci 3, 4 ou 5 livres qui sortent de 5 intellectuels différents qui véhiculent 5 idéologies différentes. Celle-ci aussi, on a des déterminismes spécifiques.
Alors on a des déterminismes spécifiques, mais puisqu'on est dans la domination réelle achevée, on est à un point où l'impérialisme de la marchandise s'est totalement réalisé dans sa forme unitaire. Je prends un truc tout simple, aujourd'hui, dans la production éditoriale de masse, vous n'aurez aucun bouquin qui remet en cause la légitimité officielle du discours idéologique dominant sur le terrorisme. C'est-à-dire que je sois un intellectuel de gauche ou que je sois un intellectuel de droite, en tant que pute du crétinisme, de la marchandise médiatique, je fais communion dans la logistique officielle du terrorisme. Le terrorisme, c'est Daesh. Tout le monde dit « le terrorisme, c'est Daesh ». Il y a donc des communions officielles obligatoires. Puis après, il y a des prismes différentiels. Il y a des prismes différentiels. Mais aujourd'hui, un livre qui sort, qui est une production éditoriale intellectuelle, c'est par essence la légitimation du rapport social de l'aliénation. Alors vous avez des gens qui veulent le légitimer à gauche, vous avez des gens qui veulent le légitimer à droite, mais de toute façon, les grands totems médiatiques de l'obligation aliénatoire du capital, aucune remise en cause sur la Seconde Guerre mondiale et ses mythes, aucune remise en cause sur le terrorisme, aucune remise en cause sur le diktat obligatoire de l'immigration, il y a des constantes. Donc si vous voulez, aujourd'hui, tout le monde communie, et puis chacun, en fonction de ses différences, qui sont elles-mêmes la résultante d'une histoire personnelle prise dans une histoire collective, Va ajouter sa touche. Mais ce que Marx nous montre dans l'idéologie allemande, c'est que rien ne vient de nous. Rien ne vient de nous en notre subjectivité individuelle. Quand notre subjectivité individuelle dit, c'est que ça vient se dire en elle. L'idée narcissique que nous aurions cette faculté d'auto-produire entre nos deux oreilles, à partir d'un cortex libre, ce que nous avons envie de dire n'a pas de sens. Ce que nous avons envie de dire dit les envies d'une formation sociale qui se cristallise en nous à travers ses contradictions, ses particularités, ses positions et ses oppositions. Autrement dit, chaque fois que l'un d'entre nous dit quelque chose, il ne fait que dire ce que le seuil contradictoire, émancipation, aliénation, qui le traverse, vient dire. Voilà, tout ce que je vous raconte, c'est pas moi qui décide de le dire. C'est le résultat d'une histoire qui s'est incarnée dans des groupes, dans des mouvements, qui font qu'à un moment donné, il y a la barrière, il y a le pouvoir et il y a l'anti-pouvoir. Où on parle du point de vue du pouvoir, où on parle du point de vue de l'anti-pouvoir. Mais ce qu'on dit quand on est du point de vue du pouvoir ou ce qu'on dit quand on est du point de vue de l'anti-pouvoir n'a aucune originalité. C'est l'immanence logique de ce qui ne peut pas ne pas être dit. Je ne sais pas si je suis clair.
Et justement, je vais la question, alors cette fois je vais vous la reposer une troisième fois, mais d'un point de vue encore différent. Et je vais prendre l'exemple du mondialisme. C'est ce qui est, c'est pas l'exemple lui-même qui est important, c'est la méthode pour traiter l'exemple. C'est-à-dire qu'en fait, on a parlé du fait que c'était la production à un espace donné qui produisait la conscience. Mais comment se fait-il que le mondialisme réellement accompli, c'est aujourd'hui, alors que l'esprit, on peut le dater il y a 2000 ans. Il y a un truc là-dedans qui est de dire, on voit déjà l'esprit, le début de l'idéologie, oui. Il y a 2000 ans, mais pourtant l'accomplissement matériel, il est aujourd'hui. Donc si c'est oui. La production qui conditionne l'idée, comment se fait-il que l'idée puisse être plus ancienne que la réalisation matérielle ?
Bah parce que là, vous n'allez pas au bout de votre raisonnement, il faut prendre des suppositoires d'intensification radicale, parce que vous avez ouvert une porte, mais vous ne rentrez pas dans le couloir. C'est pas les aborigènes qui, il y a 2000 ans, ont produit un messianisme mondialiste. Pour produire un messianisme mondialisme, il fallait déjà être dans la valeur d'échange, même rudimentaire, parce que dans la valeur d'échange, même rudimentaire, il y a le développement infini de la valeur d'échange. Donc, on ne trouve un messianisme totalitaire que dans les espaces sociaux qui, surgis de la révolution néolithique, ont positionné la problématique d'un comptoir commercial. Et indépendamment de la question juive de Marx, lisez la conception matérialiste de la question juive d'Abraham Léon, qui va 1000 fois plus loin que Pierre Hillard, puisque justement, Abraham Léon vous montre que, contrairement à la légende, la population juive n'a pas immigré après la prise de Jérusalem, mais que la diaspora existait déjà des centaines d'années auparavant dans un comptoir commerçant mondialiste autour de la Mare Nostrum, autour de cet empire romain qui était à l'époque le monde. C'est-à-dire que le premier monde de la mondialisation, ça a été l'empire romain avec cette Méditerranée centrale qui descendait vers l'Afrique et cette Méditerranée qui montait vers le nord. Donc la pensée d'un marché mondial de l'aliénation de la Torah de servitude ne peut naître qu'à partir du moment où les conditions pratiques, objectives, d'un marché mondial même limité, laissent entrevoir un marché mondial illimité. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de messianisme mondialiste totalitaire ou paléolithique. Ce n'est donc pas l'esprit des hommes, à un moment donné, qui crée de manière furibonde un totem, une alchimie mondialiste. Ça ne sort pas de l'esprit des hommes. Ça sort de l'esprit des hommes quand la pratique de l'esprit des hommes pose les prolégomènes de possibilités de cette révélation, de cette révolution à venir. Donc on en revient toujours à la méthodologie radicale. Les hommes ne se posent les problèmes et les questions qu'à partir du moment où les questions et les problèmes sont adéquats au rapport social de production de leur existence. C'est-à-dire qu'il était impossible que à travers le Tao, à travers Confucius ou à travers le shintoïsme, des pensées orientales viennent produire une aliénation messianique mondiale. Ça ne peut pas sortir de ce rapport social qui est un rapport de rente foncière, hermétique et clôturé. L'idée d'un marché mondial dans une messianisation totalitaire, d'un gouvernement de la valeur d'échange, ne peut venir que d'un comptoir commercial qui se répand, et qui se répand de telle sorte qu'il sait qu'il doit faire du monde entier un comptoir commercial. Donc, ça ne sont pas les élucubrations du cerveau qui produisent les gymnastiques messianiques totalitaires de la valeur d'échange, c'est la pratique sociale d'une valeur d'échange qui, au fur et à mesure qu'elle se répand, rend nécessaire la pathologie névrotique d'un projet qui vise justement à universaliser le comptoir commercial. Mais lisez Abraham Léon, la conception matérialiste de la question juive, tout est dedans et ça va beaucoup plus loin que ce dont vous me parlez.
Ok, alors j'ai une autre question sur une critique qu'on fait souvent, enfin qui est faite souvent à l'idéologie allemande, c'est celle de ce qu'on appelle une chute engelsienne quelque part. Quand on lit un texte de Marx, on s'attend à trouver une espèce de mécanique d'engendrement réciproque entre l'idée et la matière, alors que ce dont on a parlé, ça a l'air d'être un sens de causalité qui va de la pratique à l'idée. Et on n'a pas l'air de trouver cette dialectique, cet engendrement réciproque des deux. Alors, est-ce que c'est une erreur ou est-ce que ça y est ?
Alors, déjà, si vous voulez, les thèses sur Feuerbach, c'est la récusation radicale de ce que vous avez appelé la logique idée matière. C'est-à-dire que la logique idée matière, c'est l'insipidité, et je vous rappelle la thèse 1. La thèse 1 est une critique radicale de ce que vous venez de définir sur l'idée et la matière. Le matérialisme bourgeois de la marchandise en mouvement, qui veut prendre le pouvoir sur le monde, nous réduit à la chosification, il nous réduit à la réification. Donc, d'où viennent nos idées ? Des déterminations de la matière, des déterminations de l'objet. Puisque justement, nous devons construire un monde d'hommes objectivé dans la chosification, la réification. Le projet des lumières marchandes de la marchandise, c'est que l'homme cesse de vénérer un dieu immatériel, mais qu'il divinise la matérialité des objets. Donc le projet maçonnique des lumières marchandes de la marchandise, c'est l'homme à quatre pattes devant les objets. Donc tout le système matérialiste bourgeois, d'Holbach, Lamétrie, Diderot, Condorcet, c'est homme fait génuflexion sur les objets, ce sont les objets qui déterminent tes pensées. Mais Marx ne reprend pas ça, il l'abolit en montrant l'aliénation qui est là-dedans, et je vous renvoie au fameux texte de Pankok, Lénine philosophe, qui fait la radicale opposition entre matérialisme historique subversif et matérialisme bourgeois classique de domestication. Donc, qu'est-ce qui nous détermine ? C'est la pratique sociale de nos relations. Ce n'est pas les objets. Donc, alors que le matérialisme bourgeois réduisait l'homme à une dualité statique, il y a les idées et il y a la matière. C'est la matière qui crée les idées. Marx pulvérise ça en disant « mais la matière, ça n'existe pas ». C'est du pipeau, la matière. Il y a une matérialité sociale dynamique de relations sociales. Ce qui fait l'émotion, ce qui fait le surgissement, l'intelligence d'un enfant. On l'a vu, par exemple, à travers l'expérience de l'enfant sauvage, l'expérience de Guy Itard. J'en ai parlé à plusieurs reprises. Je pense que vous connaissez le film de Truffaut, L'enfant sauvage. C'est un enfant qui est récupéré à l'adolescence et qui ne parlera jamais, malgré tous les efforts qu'on fera pour le réadapter. Pourquoi ? Il a tout pour parler, mais il ne parlera jamais. Et on a retrouvé plein d'enfants sauvages qui ne parleront jamais. Parce que ce qui fait que l'enfant parle en ayant des idées, c'est pas qu'il reproduit la matière qu'il lui parle. C'est qu'il est dans une relation sociale d'émotion et de tendresse qui développe un cognitif d'émerveillement et de dialogue au monde. Donc, entre la naissance et les 6 ans, dans n'importe quelle communauté humaine, à travers la tendresse, les caresses, l'intelligence, l'émerveillement, la découverte, l'enfant devient un être doué de langage et de rationalité. Mais non pas parce que la matière vient lui produire des idées, parce qu'il y a une relation sociale d'émerveillement et d'affection. Et si vous récupérez un gamin de 15 ou 16 ans qui n'a jamais vécu cette phase-là, même s'il a tout l'appareillage, même s'il y a toujours la matière, même s'il pourrait toujours avoir les idées, il ne parlera jamais. Donc, ce que montre Marc, c'est que nous ne sommes pas le produit dans nos idées d'une matière qui viendrait peser. Nous sommes une rencontre affective, historique, dialectique, où tout se joue dans un dialogue. Et donc, Marx abolit le matérialisme bourgeois qui a produit la Révolution française du capitalisme mondial en mouvement, et il met en scène la dialectique radicale du matérialisme historique qui fait que l'homme est le produit d'un dialogue à la réalité. Et ça va d'ailleurs tellement, tellement loin que, quelque part, quand vous lisez Lénine philosophe, alors à l'époque, Lénine philosophe, Pankok, on ne savait pas que Poincaré avait été totalement pompé par Einstein, mais que les lois de la relativité, ce n'était pas Einstein, mais c'était Poincaré. Mais cette théorie de la relativité qui vient dire que finalement, rien n'existe hors du champ dialectique des relations sociales, de la perception et de l'émotion. Il y a déjà quelque part Poincaré dans l'idéologie allemande.
Et je me suis mal exprimé sur ce que je voulais dire par matière. Je voulais dire qu'en fait, en lisant, et puis surtout dans la discussion qu'on a eue, on a bien fait le lien qui allait de la production à l'idée, mais on a l'impression qu'il n'y a pas de rétroaction de l'idée sur la production. Vous voyez ce que je veux dire ?
Ah mais Marx dit le contraire, et Engels dit le contraire. Sauf que l'idée, si vous voulez, il faut rompre avec le totem de l'idée. Je connais un certain nombre de personnes qui se positionnent comme étant des intellectuels, c'est-à-dire des névrosés de la division intellectuelle du travail. Et quand on leur dit, alors en tant qu'intellectuel, sur quoi vous travaillez ? Nous travaillons sur l'idée. Sauf que l'idée, ça n'existe pas. L'idée, c'est l'idéologie en tant que rapport social de domestication et d'arraisonnement du cerveau. C'est-à-dire que, si vous voulez, l'idée n'existe pas. Ce qui existe, c'est des représentations sociales qui produisent des perceptions et des formalisations qui font jugement d'appréciation. Il y a 4 siècles, on aurait eu un débat sur la contraception et l'avortement, tout le monde se serait hérissé en disant « mais non, c'est pas possible, on peut pas éliminer un enfant, on peut pas, c'est pas possible ». Aujourd'hui, l'idée a évolué. Tout le monde considère que une femme peut, mais il n'y a pas d'idée là-dedans. Il y a des formalisations de représentation. Et les formalisations de représentation qui font qu'il y a 4 siècles, tout le monde aurait dit non, la contraception, c'est pas possible, c'est un pré-avortement. Et aujourd'hui, où tout le monde, à l'envers, dit non, c'est naturel, la femme utilise pour la réalité de son corps. Mais il n'y a pas d'idée il y a 4 siècles, il n'y a pas d'idée aujourd'hui. Il y a des formalisations sociales de représentation qui, en fonction de l'histoire en devenir, des tabous, des totems et des évolutions, fait que les perceptions sont différenciées. Mais l'idée n'existe pas. Ce qui existe, c'est l'idéologie en tant que forme de représentation aliénatoire d'un temps donné. Et en fonction du temps donné, l'idéologie bouge. C'est-à-dire que là, je suis en train de bosser les guerres de religion. Un calviniste à l'époque de l'amiral de Coligny, quand il rentre dans une église et qu'il voit une statue de la Vierge, il la casse. Parce que c'est insupportable qu'on représente la Vierge ou les apôtres. Je veux dire, aujourd'hui, un calviniste avec son appareil photo qui se balade à Paris et qui vient à Notre-Dame de Paris, il va photographier la Vierge, il ne va pas, avec une hache, détruire la statue. C'est pourtant toujours un calviniste. Sauf qu'il n'y a pas de calvinisme en idée, il n'y a pas des idées qui véhiculent ceci ou cela chez les calvinistes. Il y a une aliénation calviniste historique qui, au fil du temps, modifie ses perceptions, ses agissements, ses contre-agissements et ses positionnements. Donc l'idée qu'il y aurait des idées est à proprement parler justement cette imposture aliénatoire qui voudrait nous faire croire que le messianisme de la marchandise à travers la mondialisation contemporaine qui veut un gouvernement mondial résulterait d'une idée qui aurait traversé l'histoire. Il n'y a pas d'idées qui traversent l'histoire, il y a des pratiques sociales qui produisent des idéologies qui, à un moment donné, formalisent un projet historique.
D'accord. Et donc,
ceci dit, alors après, les idéologies, bien évidemment, réagissent sur l'histoire. Et ça, Marx le montre, l'idéologie, comme aliénation collective, est un facteur actif dans l'histoire. Le fait qu'on ait brûlé les sorcières en pays protestant, à travers toute cette névrose de haine et d'insupportabilité par rapport au vieux terroir traditionnel de la rente foncière, c'est devenu une force de mobilisation pour éradiquer dans les campagnes des substrats d'insurrection qui défendaient un temps ancien. Donc, le délire de la chasse aux sorcières, qui est bien le produit d'une idéologie, vient nettoyer les campagnes pour que l'ordre despotique de la marchandise en Écosse, en Hollande et dans tous les pays nordiques vienne faire effectivement assujettissement et légitimation d'une politique d'extermination de la femme séditieuse dans des campagnes qui doivent être rentabilisées par la manufacture du capital qui s'implante. Donc, mais l'idéologie n'est pas autonome. C'est-à-dire que l'idéologie réagit en retour comme force, mais en tant qu'elle est le produit d'une nécessité historique.
Ok, si on ajoute les classes et la lutte des classes là-dedans, Marx parle du fait que les idées dominantes sont les idées de la classe dominante et que... et surtout que les hommes font l'histoire de manière involontaire. Ma question, c'est est-ce que si l'histoire est faite de manière involontaire, est-ce que les classes dominantes qui font les idées dominantes sont elles-mêmes déterminées par quelque chose et est-ce qu'elles font l'histoire volontairement ou involontairement?
Alors, l'histoire, comme dialectique universelle, est faite involontairement. Quand Cromwell fait exécuter le roi et que les têtes rondes en Angleterre vont produire une gigantesque extermination des campagnes traditionnelles, organiser la déportation des Irlandais. Je rappelle que les premières vagues d'esclaves aux États-Unis ne sont pas des esclaves noirs, mais ce sont des esclaves blancs qui ont été déportés par Cromwell et la révolution capitaliste anglaise dans les colonies anglaises. On ne parle jamais de ces esclaves blancs qui sont, entre guillemets, le premier convoi. Donc, Cromwell, il ne sait pas où il va, mais il sait quand même ce qu'il fait. Cromwell sait très bien qu'il représente les intérêts d'une classe capitaliste montante, qu'il doit éradiquer la vieille Angleterre et qu'il doit commencer à travailler à produire cet impérium maritime qui va être ce que Marx appelle le grand déclencheur de la modernité capitaliste mondiale, comme précisément l'économie monde dont nous parlions tout à l'heure. Quand nous parlions du mondialisme, la première économie monde, qui est l'économie méditerranéenne, va se déplacer vers l'Atlantique. Donc l'économie monde autour de Venise et de Gênes, dans sa première phase, va disparaître, et on va avoir une deuxième économie monde autour d'Amsterdam et de Londres. Cromwell ne sait pas où il va, au bout du bout, parce qu'il n'a pas l'intelligence historique des fins dernières, de la radicalité historique, de ce qui produit le déterminisme. Mais Cromwell, au moment où il fait le choix de faire exécuter le roi et qu'il fait le choix de déporter les paysans irlandais et d'implanter la modernité dans les campagnes anglaises de manière intensive pour produire la manufacture du capital en mouvement, il sait où il va. Donc quand Marx dit « les hommes font l'histoire sans savoir ce qu'ils font et l'histoire, quelque part, les détermine », il ne veut pas dire que les hommes ne savent rien et qu'il y aurait donc une histoire post-hegélienne qui saurait tout. Ce qu'il veut dire, c'est que l'histoire est faite par des hommes qui perçoivent fort bien leurs intérêts concrets, mais qui n'en ayant pas l'intelligence historique, ne savent pas où cela va. C'est exactement pour les attentats du 11 septembre ou pour les derniers attentats que nous avons connus à Trèves ou ailleurs. Il est évident que la logique de la crise capitaliste dans la forme supérieure de la baisse du taux de profit rend le chaos comme nécessité absolue de gestion de toutes les réalités de notre quotidien. Donc, le terrorisme est une nécessité historique qui avance. Il y a évidemment des larbins dans différents bureaux, dans différents services spéciaux, qui formalisent ça. Bon, ils comprennent bien qu'ils participent à un agencement bizarroïde. Mais ils sont incultes, ils sont ineptes, ils sont insanes, et ils n'ont qu'une vision historique à long terme. Ce sont des bricoleurs de l'instant. Donc, les hommes font l'histoire. Quand ils la font dans les secrets les plus secrets, des services secrets, ben, ils savent bien qu'il y a de la magouille. Mais ils ont radicalement inintelligence de la compréhension du mouvement en son ensemble.
D'accord. Donc, pour préciser, j'en sais rien, moi, par exemple, si on prend les... Si on prend les élites juives qui veulent construire le grand Israël, vous pensez que ce qu'ils ont en tête quand ils font ça, ils ont bien conscience des intérêts concrets du marché mondial et qu'ils n'ont pas d'illusions religieuses?
Je comprends pas votre question.
Bah, c'est-à-dire que si les classes dirigeantes font l'histoire, est-ce qu'elles le font, même si elles connaissent pas le mouvement, est-ce qu'elles la font avec simplement l'intellection des nécessités pratiques? Ou est-ce qu'elles ont en tête une illusion idéologique ou religieuse aussi?
C'est les deux. Je veux dire que je ne sais pas quel est le niveau de névrose religieuse de Netanyahou. Mais il est évident qu'à partir du moment où il est l'agent actif du Grand Israël, il est obligé, en tant que représentant de la classe capitaliste israélienne, de fusionner avec les cheminements aliénatoires d'exaltation de cette nomenclatura. Mais en tout cas, ce qui est sûr du point de vue de la question juive et du capital, c'est qu'il ne sait pas où il va et qu'il est hors d'état du point de vue historique de ses connaissances qui sont ultra limitées, de comprendre en quoi ce chaos-là va vers la révolution sociale mondiale et pas du tout vers le grand Israël. Ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque classe capitaliste a sa lubie, ses névroses, ses fixations, ses totems, ses tabous. Elle fonce, elle a des objectifs à remplir. Il y a un carnet de commandes aliénatoires. Mais Hegel comprenait le tout de l'histoire, Marx comprend le tout de l'histoire, vous et d'autres, dans le cadre de groupes radicaux, vous allez peut-être à un moment donné comprendre le tout de l'histoire, mais ce qui est sûr, c'est que Netanyahou, Trump, Macron, Poutine, eux, sont dans l'incapacité radicale de comprendre quoi que ce soit, puisqu'ils sont d'abord assujettis à l'idée que la marchandise est éternelle. Le projet des hommes politiques, c'est de permettre la perpétuation du prêt carré de leurs intérêts névrotiques dans un espace délimité qui fonde leur légitimité aliénatoire. Mais ces gens-là sont à des milliards d'années intellectuelles de pouvoir imaginer la baisse du taux de profit, la crise terminale et la mort du capital. Ce sont des ignares absolus. C'est-à-dire que ce sont de bons manipulateurs concrets au quotidien pour agencer la servitude, mais ils sont dénués de toute culture radicale, et reprenez les commentaires de Debord sur la société du spectacle, il y eut un temps où Louis XIV et Napoléon avaient des visions stratégiques, Netanyahou, Poutine, Macron, Theresa May, mais ce sont des nabos incultes. Le temps de la modernité du capital est celui de l'inculture généralisée. Ces gens-là n'ont aucune vision radicale à long terme. La baisse du taux de profit, la marchandise, la crise du capital, même sans aller jusqu'à Marx, Même Clausewitz, ils savent même pas ce que c'est.
Et juste une question de clarification sur une formule que Marx utilise à plusieurs reprises. Il parle, il dit les heures de l'histoire et plus généralement les révolutions. En quoi est-ce que ça vient, parce que je ne comprends pas très bien, du conflit entre les forces de production et le mode de commerce?
Alors, ce n'est pas les forces de production et les modes de commerce, c'est la dialectique des forces de production qui rentre en contradiction avec les rapports sociaux de production. À la mort de Saint-Louis, Louis IX, les structures féodales classiques de la rente foncière primitive vont se dissoudre. Progressivement, on rentre dans un temps féodal qui est de moins en moins féodal et qui a ouvert, à travers la dette publique, le champ pour la bourgeoisie d'intégrer tous les dispositifs de pouvoir et de contrôle étatique. On va donc avoir, parallèlement à la noblesse d'épée, une noblesse de robe qui ne va cesser de grossir. On a donc un temps long, où les forces productives mises en mouvement par la bourgeoisie vont supplanter les forces traditionnelles de la rente foncière telle qu'elle avait exprimé à la fin du haut Moyen Âge la spécificité d'avant le capital. Mais on est dans un temps long, on est dans un temps très très long. Et donc la société d'Ancien Régime, elle n'a strictement rien à voir entre le 13e et le 17e. Si vous prenez par exemple le Parlement de Paris au 15e et le Parlement de Paris au 17e, c'est plus du tout la même chose. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez des rapports sociaux de production qui ont aménagé des équilibres certains, incertains, passagers, difficiles, faciles, entre la monarchie, les États généraux, le clergé, le tiers-État, la noblesse, l'armée, la dette et le développement de la modernité de la marchandise. Et on arrive dans ces années 1780 où on a encore une formalisation de rapports sociaux qui correspond à ce qu'il y avait il y a plusieurs siècles. Mais il y a un développement des forces productives qui a fait péter toute la réalité fonctionnelle du développement de la production sur le terrain. Donc, il y a un moment où il y a un hiatus. Les rapports sociaux qui sont hérités d'avant ne correspondent plus aux forces productives qui ont produit aujourd'hui un maintenant qui va produire un futur qui est radicalement contradictoire à l'hier. Et là, on rentre dans une phase, dit Marx, de révolution sociale. Il y a une contradiction entre les forces productives et les rapports sociaux. Pourquoi il y a eu la révolution en Angleterre en 1640 et pourquoi il y a eu la révolution en France dans les années 1780? Parce qu'il y a justement ce hiatus entre le développement des forces reproductives et l'habillage institutionnel des rapports sociaux qui le recouvrent. Donc, à un moment donné, ça pète. Mais ça pète pas parce que les hommes descendent dans la rue, parce qu'il y a des fous furieux. Ça pète parce qu'il y a une contradiction en acte dans le rapport social général. La Révolution française n'a pas eu lieu en 1620. En 1620, les conditions n'étaient pas mûres. En 1789, elles étaient mûres. Et elles n'étaient pas mûres parce que les loges maçonniques avaient magouillé souterrainement. La magouille des loges maçonniques souterraines ne faisait qu'épouser le devenir des lumières marchandes de la marchandise. Ce n'est pas les loges maçonniques qui ont fait la révolution, c'est la marchandisation qui, rendant nécessaire la révolution, a eu, bien évidemment, à travers les clubs et à travers les loges, tout un appareillage politique. Mais c'est toujours la matérialité concrète du développement des forces productives qui explique à un moment donné le hiatus et donc le renversement.
Ok. J'ai une dernière question sur l'idéologie allemande. Je vais revenir sur ce que disait Pankok. Quand il parlait du matérialisme historique et il parlait de, comment dirais-je, du prolétariat, du matérialisme historique. Il y a un moment, il y a un passage où il explique qu'en fait, le matérialisme historique et la méthode dont on vient de parler, c'est
Dans les
une.
philosophes?
Oui.
D'accord.
Il explique que c'est une. Si je me souviens bien, il explique que c'est quelque part une méthodologie, une méthodologie là, qu'il appelle de combat et de lutte, et qu'il ne faudra pas que les ouvriers s'imaginent avoir la vérité absolue. Donc ma question, c'est est-ce qu'on doit considérer cette méthode comme une méthode de combat qui a ses faiblesses, et on doit renoncer à voir la totalité de l'histoire avec ça, ou est-ce que c'est une méthode qui peut réellement nous permettre de comprendre la totalité de l'histoire?
Alors, c'est une méthode qui permet de comprendre la totalité de l'histoire, mais comme c'est une méthode subversive, elle est à l'inverse du discours de la méthode. Le discours de la méthode, c'est un bouquin là, que j'ai dans ma bibliothèque qui est écrit par Monsieur Descartes, le discours de la méthode. Monsieur Descartes, à un moment donné, a fait sortir de son cerveau un discours de la méthode où il nous explique comment des idées les plus simples aux plus complexes, on peut comprendre le monde. C'est une projection narcissique intellectuelle dans le cadre de l'aliénation de la division du travail qui fait qu'à un moment donné de la post-Renaissance, dans le cadre des Lumières marchandes en mouvement, M. Descartes, comme M. Leibniz, comme M. Hume, comme M. Locke, ont un prisme méthodologique qui sort de leur cerveau. Le matérialisme historique, ce n'est pas un livre qui s'appellerait Discours de la méthode subversive et qui serait dans une bibliothèque. C'est la synthèse Marx-Hegel, les présocratiques, de l'automouvement historique du monde. Quel est le lieu de la méthode révolutionnaire? Ce n'est pas un bouquin qui s'appelle Discours de la méthode subversive et qui est dans la bibliothèque. C'est quelque chose qui vous traverse à travers toutes les luttes de classe paysannes et ouvrières, en passant des présocratiques à Hegel et à Marx, et qui est dans votre trip à chaque instant, dans la compréhension radicale que tout ce qui est le vrai de l'officialité régnante de la marchandise, c'est le faux. Et que tout ce qui en est faux en est le vrai. Et c'est quelque chose qui passe dans votre trip d'insurrection. Ce n'est pas un texte, c'est un cri qui peut se textualiser. Là, on m'a demandé de faire un texte sur mai 68 pour montrer en quoi mai 68 n'avait rien à voir avec ce que tout le monde croyait qu'il y avait eu en mai 68. Mais ce n'est pas un truc qui sort de ma tête. C'est quelque chose qui est la réalité de mai 68, qui m'a été transmis par des expériences de radicalité, qui fait qu'à travers Hegel et Marx, derrière l'esprit 68 de la libération capitaliste des mœurs qui vient cacher la grève sauvage, faut réexpliquer aux gens pourquoi tout pétait déjà en 66, en 67. Comment c'est pas la grève étudiante qui a produit mai 68. Mai 68 existait déjà en 67, ça n'arrêtait pas de monter, ça n'arrêtait pas de monter. Et le carnaval étudiant est venu en gigantesque icône virtuelle médiatique cacher la radicalité de la grève sauvage. Hier soir, je regardais la télé, il y avait l'abruti de Cohn-Bendit qui était invité par Delahousse. On n'a pas parlé une seule fois de la grève ouvrière. On a parlé du petit rouquin qui s'excitait sur les pavés pour finir dans les bras de la Macronie rothschildienne. Donc, si vous voulez, la méthode radicale dont parle Pankok, la méthode radicale dont parle Marx, ça n'est rien d'autre que la conscience radicale de l'automouvement de la réalité. Si vous demandez à Héraclite, le logos, c'est quoi? Héraclite ne va pas vous dire, c'est ce que moi, Héraclite, je dis. Il va répondre, le logos, c'est ce que j'accueille du mouvement réel de l'immanence, du devenir universel. Si vous me demandez, c'est quoi la méthode? Mais la méthode, ça n'est rien d'autre que métaodos, le chemin objectif, par lequel le mouvement réel développe ses contradictions dialectiques, et positionne le grand enjeu universel de nos désirs, de nos joies, de notre conscience et de notre satisfaction, émancipation, aliénation.
Ok.
C'est pour ça qu'il faut relire, relire et relire les thèses sur Feuerbach, qui sont donc en quelque sorte le préambule de l'idéologie allemande, parce qu'il y a tout là-dedans, il y a tout.
S'éveille, s'éveille,